Voilà, d'habitude, je donne toujours un thème, un titre au sujet. Là, c'est vous qui allez me donner le titre de ma prédication. C'est vous qui allez me, je vais vous aider, vous me donner des indices. Alors, si vous me dites l'avant-dernier, ça dépend le chapitre, on va dire le dernier des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Vous ne regardez pas vos bibles ni vos portables. Oui, le don des langues. Le don des langues. C'est quoi ces langues? Ça existe encore? On est au 21e siècle. Elles se sont éclipsées. Alors c'est vrai que dans certains mouvements chrétiens, le don des langues, eh bien, c'est quelque chose de dépassé. Ils disent, mais les langues cesseront, en citant 1 Corinthiens 13, verset 8. Les langues pour eux ont cessé. On appelle ce mouvement les cessationnistes, qui pensent que certains dons spirituels se sont arrêtés après la Pentecôte, après les disciples. Et donc, nous avons juste la parole de Dieu, puisque le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'ensemble des livres du Nouveau Testament, ont été condensés, validés par l'Église au 2e, 3e siècle, donc en 380, le Concile de Rome, de Carthage. On verra plus tard en annexe, voir un peu plus loin ce que dit l'apôtre Paul. Pour d'autres, les langues, ils s'appuient sur des communautés, des tribales, qui expriment aussi se parler en langue. Mais quel parler en langue? De quel esprit? Satan aussi, il imite Dieu. Donc, ce n'est pas pour autant que nous devons rejeter ou être dans le déni de ce que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas parce qu'il y a une fausse monnaie que nous devons rejeter la bonne. Par contre, nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, selon 1 Jean 4, verset 1. Pour d'autres, certains chrétiens ont eu connaissance de soi-disant chrétiens qui avaient parlé en langue, mais non spirituel. Et à partir de ce cas isolé et mauvais, donc ils sont méfiants et ils en ont fait une généralisation, ce qu'on appelle abusive. Et on en tire une règle et une doctrine contre. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, souvent à controverse, qui a fait couler pas mal d'encre, voire d'ironie. Rappelons-nous dans Acte 2, ceux qui ont entendu les disciples, ils ironisaient, ils se moquaient, mais ils sont pleins de bédoux. Alors je voudrais vous faire une présentation de ce don des langues. Nous allons voir en premier un peu d'histoire, rapidement. À quoi servent les langues, une ou plusieurs langues? Son but et les conditions pour le recevoir. Alors un peu d'histoire. Il est bien de rappeler que le don des langues ne s'est pas arrêté à la Pentecôte, au 1er siècle, avec les apôtres. Au 2e siècle, un père de l'Église, Irénée de Lyon, mentionnait que dans l'Église, des frères parlaient en langue, par l'Esprit. Certains missionnaires aussi avaient reçu le don des langues, dans une langue locale, où ils évangélisaient. Il y a eu les Cévenols, au 17e siècle, les protestants persécutés qui ont eu des expériences des langues. Vous avez entendu parler peut-être des petits prophètes. C'était des enfants qui prophétisaient dans les Cévennes en 1685. Le célèbre pasteur John Wesley en 1738 aussi qui a eu des expériences. Puis puis au début du XXe siècle avec le mouvement pentecôtiste, et le milieu du XXe siècle dans les années 60-70 avec le renouveau charismatique dans les églises évangéliques et catholiques. Je n'ai pas voulu aller trop loin au niveau de l'histoire. Donc je vous propose une lecture dans acte 2. Avec le vent. Acte 2, verset 1er au verset 18, dans la version seconde. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes, et dans l'admiration, ils disaient : voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres : que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient : ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes : vous juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme on le supposait, car c'est la troisième heure du jour, 9h du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël : dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Alors on voit au verset 5 de ce chapitre que des Juifs accourent venus de toutes les nations pour entendre les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Alors, j'ai transposé parce que ce sont des noms un peu barbares. Parthes, Mèdes, Élamites. Parthes, c'est l'Iran actuel, l'Asie centrale. Mèdes, c'est l'Iran côté Kurdistan. Élamites, c'est l'Iran sud-ouest, Ouzistan. Mésopotamie, c'est l'Irak. La Judée, Israël, la Cisjordanie, Palestine. La Cappadoce, c'est la Turquie. Le Pont, c'est la Turquie côté nord, le long de la mer Noire. Non, pas la carte là. Asie, côté mer Égée. La Phrygie, c'est la Turquie, Anatolie, centre-ouest. La Pamphylie, c'est la Turquie côté sud, l'Égypte, la Libye. La Crète, Rome. Alors, si on s'imagine deux minutes, cette foule nombreuse qui arrive de tout le bassin méditerranéen, et le Saint-Esprit dit aux douze : vous avez 6 mois pour apprendre toutes ces langues. Vous imaginez un peu ? Déjà que pour apprendre l'anglais, Alors, on peut noter que le texte ne dit pas qu'ils parlèrent en arabe, en perse, en latin. C'est bien de s'arrêter sur acte 2, versets 6 et 11 que j'ai lu. Le texte décrit les auditeurs comme entendants, chacun sa propre langue maternelle. Cela est dit aussi au verset 8 et 11. Je ne pense pas que ce soit seulement un miracle d'audition. Mais au verset 4, les disciples, dans le grec, il est dit, ils commencèrent à parler selon ce que l'Esprit leur donnait de prononcer. Alors, miracle auditif ou linguistique? Cela peut supposer qu'à la fois, il y avait deux côtés, l'audition et des langues. Mais le texte ne va pas plus loin. On voit que Pierre aussi rappelle ce que le prophète Joël avait dit 5 siècles avant Jésus-Christ, au chapitre 3, versets 1 à 7, à 5, sur l'effusion du Saint-Esprit. Plus tard, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 14, je vais vous le lire, parce qu'on va y venir, aux Corinthiens. Versets 21 et 22, 1 Corinthiens 14. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. L'apôtre Paul y fait un parallèle entre la prophétie d'Ésaïe 28, c'est le même verset, verset 11. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Dans ce passage d'Ésaïe, on voit que c'est un jugement qui est prononcé contre le peuple de Juda. Il a refusé d'écouter la parole de Dieu, donc Dieu lui parlera par la langue d'envahisseurs étrangers, en l'occurrence les Assyriens. Les lèvres balbutiantes et le langage étranger sont d'abord un signe de jugement. En revanche, dans acte 2, au verset 4, les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand l'apôtre Paul fait le lien, le parallèle entre ces deux passages, Corinthiens 14 et Ésaïe 28, c'est pour expliquer que les langues peuvent être un signe pour les incroyants, mais pour montrer ce qui était un signe pour les incroyants, un signe de jugement, devient un signe de l'effusion du Saint-Esprit et de l'annonce de l'Évangile à toutes les nations, dans leur propre langue. Et la proclamation des merveilles de Dieu, c'est ce qui est dit. Donc on voit bien qu'il y a une portée universelle de la Pentecôte, de l'apôtre Pierre, je répète, dans le prophète Joël, il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Donc avant tout, le message de Pentecôte, c'est un message de grâce et d'accomplissement des promesses de Dieu. Le cœur du message, c'est la grâce offerte à toutes les nations. Et pas seulement, au départ, un jugement. Rappelons-nous, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties quand Pierre a proclamé l'Évangile. Je voudrais revenir sur le texte de Corinthiens 13, versets 8 à 12. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, on n'a plus besoin des langues. On n'a plus besoin de la prophétie. Nous avons la parole de Dieu. Mais la question, quand ces dons cesseront-ils? Paul, ah c'est le cadeau, Paul. Daniel Paul. Dans le contexte, Paul parle de la venue de la perfection et non de la fin de l'ère apostolique. Il continue, Paul, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et il explique, verset suivant, aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir d'une manière confuse. Alors vous savez que dans l'Antiquité, les miroirs, ce n'est pas nos miroirs à nous. Hein. Ils étaient polis, ils n'étaient pas nets. Il a pris ce symbole. Mais alors, retenez bien ces mots, mais alors, nous verrons. Alors, c'est bien un adverbe de temps. Nous verrons face à face, aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. On voit bien qu'au travers de ces textes, c'est plus qu'un événement situé au cours de l'histoire de l'Église. Dans le grec, le mot grec de Corinthiens 13, verset 10, ce qui est parfait est rendu par achevé, accompli. Et c'est quoi? C'est lorsque nous serons avec Christ. Nous n'aurons plus besoin des langues, nous n'aurons plus besoin de la prophétie. Nous serons dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, et ça sera parfait. Il n'a pas dit, Paul, lorsque le canon biblique sera achevé, ou lorsque l'Église aura atteint une certaine maturité. Donc on voit bien que Paul n'a pas annoncé que les langues et la prophétie cesseraient au 1er siècle, ou au moment que le Nouveau Testament serait achevé. Nous allons voir, au contraire, que dans 1 Corinthiens 12 et 14, ce que Paul encourage dans l'Église, à propos des dons, il donne des instructions sur l'utilisation dans l'Église. Alors, quel est le but? On a vu que dans Acte 2, le don des langues a été donné aux disciples pour faire connaître le salut de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Dans 1 Corinthiens 12 et 14, il est fait mention au verset 2 que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ah. Mais celui qui parle dans sa langue maternelle parle aussi à Dieu. Oui, il parle à Dieu. Mais là, personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc c'est le seul don, le parler en langue, qui est donné pour l'édification personnelle, à moins qu'il soit donné pour l'édification de l'Église dans une interprétation. Pour Paul, cette catégorie de dons appelés charisme, pneumatica, c'est-à-dire dons soufflés, inspirés, qui viennent vraiment du souffle de l'Esprit-Saint et non pas de la chair ou de notre psyché. Donc, en résumé, nous voyons que Paul insiste d'abord sur la fonction. Verset 2, le parler en langue s'adresse à Dieu. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Verset 5, sans interprétation, l'assemblée n'est pas édifiée. Donc, on parle à soi-même. Au verset 17, Paul dit, oui, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, il faut voir la définition un peu des mots, c'est important, et ne pas s'appuyer seulement sur les dires, même de théologiens renommés. Le terme utilisé dans le grec pour édifier est wakodomeo. Ça veut dire placer un bloc l'un sur l'autre pour construire une maison. Hein? C'est bien plus qu'un charabia qu'on ne comprend pas. Il y a une édification personnelle. il est parlé aussi de ceux qui reçurent le parler en langue, c'est dans Acte 10, versets 44 et 46. Je ne vais pas tous les lire, vous pouvez les noter. Et Acte 19, versets 5 à 6. Lorsque ils se furent baptisés par Paul, Paul leur imposa les mains et reçurent le don de langue. Donc, le parler en langue, c'est pour exalter et glorifier Dieu. Quelles conditions pour recevoir ces dons? Ben, je crois qu'il faut tout simplement avoir les mains ouvertes et le cœur ouvert devant le Seigneur, comme un enfant, prêt à recevoir et arrêter de cogiter. On est très rationnel, hein, nous en France, on veut comprendre, tout décortiquer. Ça ne marche pas comme ça, le Seigneur. Au verset 31 du chapitre 12 et le verset 1er du chapitre 14, l'apôtre Paul nous encourage à rechercher l'amour. L'amour est en premier. Et aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout celui de prophétie. Il dit pourtant, Paul, que je parle plus que vous tous en langue. Mais aimez la prophétie en premier, parce que la prophétie, elle sert à édifier le corps. Même si le parler en langue demeure le plus petit des dons, ce n'est pas pour autant que nous devons le négliger. Dieu aime aussi ce qui est petit. Aspirer aux dons, en grec, ça signifie désirer ardemment. Le sens, dans le verbe zélo, avoir une passion ardente, être passionné, un désir profond, un enthousiasme débordant pour quelque chose, il est employé à l'impératif et au présent. Une traduction que j'aime bien aussi, beaucoup, c'est la TOG, est donnée par ambitionner. Ambitionner, alors ça peut paraître orgueilleux, ambitionner un poste, dans une position sociale, dans le travail. C'est pas dans ce sens-là, dans le grec. C'est être zélé pour, désirer ardemment, être brûlant. Une poursuite active. C'est bien plus qu'un simple souhait passif. Bon Seigneur, si tu me donnes ce don. Être passionné, déterminé. Alors, en conclusion, recherchons l'amour. Parce que ce n'est pas d'abord recevoir des dons spirituels, une maturité, qui correspond à une maturité spirituelle. L'apôtre Paul est reproché aux Corinthiens, hein, il y avait du désordre, et pourtant ils avaient des dons spirituels. Le plus important, c'est le fruit de l'esprit, le caractère de Christ en nous. Et si nous avons cette compassion pour l'Église, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, ceux qui sont malades, alors oui, Dieu y voit le cœur. Et il donnera les fleuves d'eau vive dans notre sein, a dit le Seigneur. Amen. Recherchons l'amour, inspirons le don spirituel à prophétiser et n'empêchons pas de parler en langue, dit Paul. J'ai terminé pour ce qui est de parler en langue, on va peut-être aller plus loin. Mais déjà, rien que sur le parler en langue, la matière. J'aimerais vous donner ce témoignage. J'ai demandé au Seigneur si vous voulez le donner, parce que je veux pas trop, j'aime pas trop me parler de moi. Mais je me glorifie Jésus. Il y a bien longtemps que j'avais demandé, mais Seigneur, moi je ne veux pas être un théoricien de ta parole. J'ai grandi là-dedans. Mais je veux mettre en pratique dans tous les domaines. Je ne suis pas parfait. Seigneur, si c'est ta volonté, Dieu est souverain et il donne à qui il veut. Mais on doit aspirer quand même. On doit le rechercher. Et j'ai reçu ce don de parler en langue il y a bien des années par imposition des mains. Par imposition des mains. Je ne sais pas s'il y en a ici qui parlent en langue, mais voilà, il y a des millions sur cette planète qui prient en langue, qui parlent en langue, qui prophétisent, les dons sont là, il y en a, peut-être un peu moins en France. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais demandé le don d'interpréter. Mais le don d'interpréter, c'est un peu... c'est toujours délicat. Parce que il est dit de celui qui n'interprète pas, qui parle à soi-même. Donc si vous parlez haut et fort en langue, mais qu'il n'y a pas d'interprète, ça fait un peu ridicule, parce que les autres ne comprennent pas. Et j'avais prié et insisté. Et il y a 2 mois, j'étais dans l'église où il y a ma fille. J'ai dit, Seigneur, je veux bénir cette église, je la connais peu, je veux bénir ces gens. Et puis là, je me suis mis à parler en langue, mais pas intérieurement, plus fort. Je ne sais pas si on m'aurait entendu à l'autre bout, mais assez fort. Et simultanément, j'ai donné une interprétation. En fait, c'était pour une personne qui avait besoin, qui a été édifiée, et le pasteur lui notait. Et après, il a dit, s'il y a une personne à qui cette interprétation lui a parlé, qui lève la main, on va prier pour lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, il faut aussi se lancer, ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Si on ne se lance pas, eh bien, on reste... on peut faire des blocages psychiques, spirituel, par rapport à notre enfance ou quoi, par rapport à nos enseignements aussi. Donc il faut s'ouvrir, il faut se lancer. Voilà. Il faut se lancer. Les dons spirituels, ce n'est pas réservé aux charismatiques pentecôtistes. Les dons spirituels appartiennent à Dieu et il les donne à qui il veut, à son Église, avec un E majuscule. Donc c'est à nous. On a eu un enseignement, un bon enseignement de Charles-Nicolas, hein, il y a 2 ans, très bien construit, voilà. Mais ce qui est bien, c'est de passer à la pratique. Donc je vais terminer par la prière. Merci Père éternel pour ta parole, parce qu'elle est immuable, tu nous dis. Elle ne change pas. Il a été dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans une prière. Alléluia. Je te loue et te bénis, Père, parce que tu es un papa. Et tu nous dis, Seigneur, méchants comme nous sommes, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison tu nous donneras de bonnes choses, le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je te prie que tu enracines cette parole dans nos cœurs, qu'elle prenne vie, qu'elle soit une parole vivifiante. Seigneur, que tu touches nos cœurs, tu brises toute résistance aussi à ce que tu veux faire dans ton Église, dans nos vies, dans nos cœurs. Je te glorifie, Père éternel, je te loue et te bénis, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est à la croix que tu as pris, Seigneur, nos péchés. C'est toi qui as souffert à notre place pour nous donner la vie éternelle. Cette vie, tu l'as annoncée le jour de la Pentecôte. Des gens ont été transformés. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, qui reste dans le jugement, mais tu es un Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, pas seulement au milieu de nous, tu es en nous et tu veux nous remplir. Que nous soyons des réceptacles ouverts à ta présence, ouverts à ce que tu veux nous donner. Alléluia. Je te bénis. Nous allons prendre le repas du Seigneur.